suis heureux de pouvoir inviter Arnaud Schrödi à me rejoindre sur la scène. Arnaud est notre orateur ce matin. Il est déjà intervenu auprès des jeunes de nos églises hier soir. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous.
Alors je connais certaines choses de toi qui sont sur le site internet de Impulsion Pentecôte, donc c'est pas difficile, hein. Je sais que tu es marié à Colette, que vous avez trois enfants, que tu travailles avec l'Union d'Église Perspective et que tu as créé le café My Goodness Café. Tu
C'est juste,
confirmes,
c'est juste, c'est
c'est juste,
juste.
ouf, jusque-là
Les
c'est
infos sont
bon,
bonnes.
les infos sont bonnes. Alors j'ai une petite histoire avec Arnaud, j'étais content quand le comité a décidé de l'inviter parce que je lui ai partagé ça, on a retrouvé l'année ensemble. À la première conférence, je pense que c'était les embryons de conférence Évangile 21, à laquelle j'ai pu assister, qui m'avait beaucoup touché. C'était Arnaud qui était à la louange. À l'époque, il était encore, je pense, en fin de cycle d'études à l'Institut biblique de Genève avec sa guitare. Et ça m'avait beaucoup ému, beaucoup touché. Comment on peut emmener des chants de louange avec une guitare. Arnaud l'avait très bien fait. Alors, je me réjouis de t'entendre aujourd'hui. J'ai entendu aussi hier soir que tu aimais le sport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu pratiques le sport?
Oui, alors très modestement, mais je fais du trail, donc
Du
je cours dans
trail.
la montagne, voilà, du
Sans
côté
distance.
du Mont Saint-Odile quand je peux m'évader.
Et tu joues toujours de la guitare.
Et je joue toujours de la guitare, tout à
D'accord.
fait.
Est-ce que tu pourrais nous dire, Arnaud, là, dans ton ministère actuel, qu'est-ce qui te donne le plus de joie actuellement dans ce que tu vis, hein, auprès du café, auprès des personnes que tu accompagnes dans ton église?
Oui, alors ma grande joie, c'est d'avoir pu voir une église naître, et même une deuxième sur Strasbourg, et de voir dimanche après dimanche des personnes étrangères à l'évangile qui viennent s'asseoir avec nous, écouter, découvrir, expérimenter ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et ça, c'est une vraie joie d'accompagner des personnes au baptême. Voilà, c'est une vraie réjouissance. C'est pour ça que je me suis engagé et merci à Dieu de pouvoir le vivre.
C'est ton carburant de tous les jours, je pense, hein.
Oui.
C'est ça. Ouais. Et puis, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager quelque chose qui te paraît un défi, une difficulté qui actuellement peut-être te charge et que on pourra les uns et les autres emmener dans la prière cette semaine, justement, pour prolonger ce moment avec Arnaud?
Alors oui, j'arrive au terme de mon ministère à la Cruthno. Donc d'ici quelques semaines, je vais arrêter d'être le pasteur et du coup je vais m'envoler vers un autre ministère. Et en fait, le défi, c'est de pouvoir accueillir quelqu'un d'autre qui prenne la suite et qui amène cette église un peu plus loin. Et voilà donc un vrai sujet de prière, que le Seigneur nous envoie la bonne personne.
Un défi. Merci Arnaud. Je te laisse la place.
Merci. Bonjour à chacun et à chacune. Alors hier, j'étais à la même place. C'était pareil, j'avais des projecteurs un peu dans les yeux, je ne voyais pas la salle. Alors, si ce matin, on peut mettre un peu de lumière dans la salle, ce serait super, comme ça, je peux vous voir. Et ce sera très, très bien comme ça. Je suis vraiment réjoui d'être avec vous. Ah voilà, super. Vraiment réjoui d'être avec vous ce matin. C'est un privilège de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur, et plus particulièrement sur le thème pour lequel on m'a demandé d'intervenir, à savoir la vie missionnelle, une église missionnelle, une vie missionnelle. Donc très heureux d'être avec vous ce matin. C'était un petit peu compliqué d'arriver jusqu'à vous à l'heure. J'ai un petit peu galéré ce matin. J'ai dû encore faire un PowerPoint. J'ai dû repasser ma chemise que je trouvais pas, qui était toute fripée. Puis du coup, je suis parti en retard. Et je me suis dit, je vais gagner un peu de temps sur la route, surtout le premier tronçon, Strasbourg à Guénot, je peux un petit peu appuyer. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, à Guénot-Zébar, c'est une route toute petite, je peux pas forcément aller très vite. Et puis arrivé à Guénot, je me suis dit, bon, allez quand même, si je peux encore gagner quelques minutes, je vais y aller. Et puis juste au moment où j'arrive sur la route, autour d'Haguenau, je vois une petite Citroën devant moi avec un poisson. Et je me suis dit, on va certainement au même endroit. Et je vais pas commencer à dépasser comme un idiot et à être un mauvais témoignage. Donc, si vous vous reconnaissez ce matin, conductrice, je crois, conductrice d'une Citroën C3 gris foncé, avec un poisson derrière qui venait par rapport d'Haguenau. Plaque d'immatriculation, je l'ai noté AG 635 GA. Est-ce que vous êtes là? Ouais, c'est toi là. Ah ben voilà. Tu m'as aidé dans ma sanctification ce matin. Et pour cela, je te remercie. En plus, si j'avais su que c'était toi, je t'aurais dépassé. Hein. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement nous rappeler pourquoi nous sommes là ce matin. C'est une rencontre de Pentecôte. C'est-à-dire que un jour, comme Jésus l'avait promis, alors que ses disciples étaient sans doute un petit peu perdus, Jésus a envoyé son esprit sur eux. Et les fruits ont été incroyables. Tout d'abord, ils sont sortis de la pièce où ils étaient rassemblés et ils ont parlé dans des langues étrangères en racontant les merveilles de Dieu, de façon à ce que des personnes qui étaient montées à Jérusalem pour louer l'Éternel et qui venaient de la diaspora, qui parlaient dans d'autres langues, entendent des Juifs parler leur langue et se demander « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Une forme de renversement de ce qui s'était passé bien plus tôt, où Dieu avait dispersé les hommes au moment de la tour de Babel et avait brouillé le langage. Là, le Seigneur renverse les choses. Et c'est des gens, des Juifs, qui parlent des langues étrangères et Dieu qui manifeste sa puissance. Cette puissance a pu être manifestée parce que quelques jours auparavant, Jésus-Christ avait décidé de se laisser mourir sur une croix. Le sang avait coulé pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est l'Évangile. Ce matin, c'est l'Évangile qui nous rassemble et la Pentecôte fait pleinement partie de l'Évangile. Il y a un verset que nous aimons bien, Jean 3,16, qui nous résume l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est un résumé court. En réalité, l'Évangile, c'est un peu plus large que cela. C'est Dieu qui envoie son Fils pour sauver une humanité rebelle, pécheresse, révoltée contre Dieu, afin de la sauver. C'est Jésus qui, sur terre, va nous montrer le Père et va accepter de mourir pour nous. C'est Jésus qui meurt sur une croix et qui, 3 jours après, ressuscite et qui, quelques jours après, vit l'ascension que nous avons fêtée il y a peu de temps, où il a rejoint son Père, où il règne maintenant dans les lieux célestes. Et puis il a envoyé son Esprit afin que l'Église se mette en route. Et si nous sommes là ce matin, c'est grâce à cette Pentecôte initiale. Et puis il est au ciel et nous l'attendons. Nous attendons son retour, où il viendra juger les vivants et les morts. Et il prendra celles et ceux qui auront placé leur foi en lui. Et nous vivrons avec lui l'éternité. Amen. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. C'est ça l'Évangile. C'est cet Évangile-là qui nous anime. Alors je vous ai proposé un thème ce matin. Entre dans ta destinée terrestre. Ce titre vous a peut-être étonné. Peut-être qu'il a piqué votre curiosité parce que nous avons l'habitude d'entendre parler de notre destinée céleste. Cette vie éternelle que nous attendons et où nous allons vivre, nous l'avons dit à l'instant, avec Dieu, dans une réalité parfaite où le mal n'existera plus. Et si nous attendons ce moment avec foi et avec impatience, cela ne veut pas dire que le reste de notre vie, le reste de notre existence n'a pas de sens. Petite illustration. Imaginez que je décide de faire le tour du monde dans un an. Dans l'attente de mon départ, je serai dans une certaine excitation de bientôt vivre cette expérience hors du commun. Pour autant, je ne vais pas m'installer dans l'oisiveté. Je ne vais pas m'arrêter de vivre en attendant ce voyage. Bien au contraire, je vais sans doute devoir redoubler d'efforts pour préparer ce voyage, faire des recherches, faire des réservations, tracer mes itinéraires, me renseigner et surtout travailler pour faire des économies et vivre pendant cette année à venir, vivre tranquillement ce voyage. Il en est de même pour nous qui sommes des voyageurs sur cette terre. Pour comprendre notre destinée terrestre, Nous avons besoin de revenir à l'essentiel, la parole de Dieu. Le livre de la Genèse nous explique comment toutes choses ont été créées, mais aussi comment l'humanité a tout cassé et a été séparée du Créateur. Le péché d'Adam et Ève nous a tous précipités dehors de la présence de Dieu. À partir de ce moment-là, chaque être humain, vous et moi, toutes celles qui sont nées sur cette terre et qui naîtront encore, chaque être humain est porteur d'un ADN spirituel qui fait de nous des pécheurs et qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Cependant, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Au contraire, il a désiré son salut. Dieu s'est engagé. Et pour cela, il a choisi un homme, Abraham, pour se constituer un peuple, le peuple juif. Et après avoir chassé Adam et Ève de sa présence, Dieu, tout à coup, décide d'habiter au milieu de son peuple, à travers le tabernacle. Dans Exode, nous lisons « Ils me feront un sanctuaire », c'est Dieu qui parle. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » ans après cela, Dieu se prépare à habiter au milieu de son peuple d'une manière toute particulière. Plus besoin de tabernacle. Même plus besoin de temple. Voilà ce que nous dit Jean. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Quelques versets plus loin, nous comprenons que la parole, c'est Jésus-Christ. Le mot utilisé ici par Jean pour habiter ses tabernaclés. Jésus a tabernaclé. Il a fixé sa tente dans l'humanité en chair et en os. Jésus, c'est Dieu qui vient rejoindre l'humanité, habiter au milieu d'elle. Et par ces mots, Jean introduit l'un des plus grands mystères de la foi chrétienne, l'incarnation. Au travers de Jésus, Dieu quitte sa gloire. Il quitte le ciel et endosse l'humanité afin de se révéler dans l'histoire de chaque homme et de chaque femme. Les hommes et les femmes de l'époque de Jésus ont pu toucher Dieu. Ils ont pu voir et entendre Dieu. Jésus-Christ s'est pleinement adapté à l'humanité, à la culture dans laquelle il a habité, en devenant semblable à un homme. En cela, Jésus est notre modèle. Il nous montre la voie. Un missiologue, Alan Hirsch, dit ceci: Jésus a réalisé un acte d'une profonde affinité, une identification radicale avec tout ce que cela signifie d'être humain. L'incarnation de Jésus nous révèle quatre réalités. La première, c'est sa présence dans le monde. Par Jésus, Dieu est réellement présent dans le monde. Il a été là, il a marché sur la terre. Il a ressenti ce que nous ressentons, Il a expérimenté ce que nous expérimentons. Deuxième réalité, c'est la proximité. Par Jésus, Dieu s'est approché de l'homme et des perdus, des petits, de ceux qui étaient rejetés. La troisième réalité, c'est l'humilité. Par son humanité, Jésus-Christ s'est fait serviteur. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous parle de son humilité, voire même de son humiliation. Dieu nous a servis jusqu'à la croix. Et enfin, quatrième réalité, c'est la proclamation. Par sa présence sur la terre, Jésus a annoncé le royaume de Dieu et appelé le peuple à la repentance et à la foi. On pourrait alors poser cette question ce matin: en quoi notre destinée terrestre est-elle concernée par le ministère de Jésus-Christ? Pourquoi tu nous racontes tout cela? C'est l'apôtre Jean qui répond à cette question, toujours dans son évangile, au chapitre 20. Voici ce que Jésus nous dit. « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » L'incarnation de Jésus n'est pas juste réservée à sa personne. Alors bien sûr, son œuvre, son ministère, personne ne peut revivre ça. Il était le seul à pouvoir le vivre. Mais l'exemple d'un Dieu qui quitte la gloire pour rejoindre la terre et se faire proche des pécheurs est pour nous. Ce que Jésus a vécu, nous avons à le vivre. Ce que le Père a fait au travers de Jésus, c'est ce qu'il veut faire au travers de chacune de nos vies. Jésus est venu en mission. Et l'Église est invitée à poursuivre cette mission. Et c'est juste incroyable. Jésus dit à ses disciples, « Vous ferez des choses encore plus grandes que ce que j'ai fait. » Jésus compte sur l'Église pour poursuivre sa mission. Comme le Père a envoyé son Fils dans le monde, le Fils nous envoie à son tour. Et les quatre caractéristiques de l'incarnation de Jésus que nous avons évoquées à l'instant doivent être une réalité pour nous. Nous devons être présents dans le monde. Alors vous allez me dire, oui, ben, je suis humain, c'est normal, je suis présent dans le monde. Oui, mais d'une façon toute particulière. Jésus n'a pas vécu dans son coin. Jésus est allé rencontrer celles et ceux qui avaient besoin d'être sauvés. Nous avons besoin de rechercher la proximité avec les perdus. Nous avons besoin de les servir, de les aimer. Et nous avons besoin de proclamer l'Évangile. Nous ne pouvons pas sauver des hommes et des femmes. Jésus seul peut le faire. Par contre, tout ce que Jésus a fait pour approcher l'humanité, nous sommes appelés à le faire. Voilà notre destinée. Nous comprenons que c'est par nos vies que Dieu veut travailler dans le monde. Et par nos vies de chacun d'entre nous. Ce ne sont pas les pasteurs ou les missionnaires ou juste les personnes un peu plus engagées dans l'Église qui font la différence. C'est nous tous. L'Église ne devrait donc pas se définir par un bâtiment ou par un groupe de personnes se réunissant régulièrement le dimanche matin ou quelques moments dans la semaine et pratiquant des activités spirituelles. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église ne devrait pas se couper du monde. Le ministère de l'Église devrait se vivre et se réfléchir, pas en fonction des croyants. Ce n'est pas nous, croyants, qui donnons le tempo à l'Église. Ce n'est pas pour nous que l'Église existe, ou pas que. C'est pour toutes celles et ceux qui sont dehors et qui désespèrent et qui attendent un sens à leur vie. L'Église, c'est aussi pour ceux du dehors. Ce matin, nous vivons un temps d'Église exceptionnel, particulier. Mais il y a ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. Et malheureusement, trop souvent, nous vivons l'Église comme si nous étions entre nous. Trop souvent, nous décrivons l'Église comme une famille qui prend soin de ses membres. Et c'est vrai. L'Église est une famille et nous sommes appelés à prendre soin de nos frères et sœurs. Mais l'Église n'est pas un cocon protecteur, un endroit où l'on se réfugie du monde qui nous entoure. Notre compréhension de l'Église, nos fréquentations, notre langage, notre culture évangélique ne donnent pas forcément l'impression que nous avons saisi ce que Jésus a réalisé en tabernaclant parmi nous. Jésus n'est pas resté sur le trône. Jésus a laissé ses privilèges pour venir sauver des hommes et des femmes. Il a quitté les myriades d'anges qui le louent pour venir servir des hommes rebelles, pécheurs, coupables. L'Église est le prolongement de ce que Jésus a fait. L'Église est le grand projet de Dieu à travers lequel il veut se révéler au monde entier. L'Église est en mission. Vous et moi, chers frères et sœurs, nous sommes en mission. Et je ne veux pas parler là de l'activité missionnaire où nous envoyons des hommes et des femmes au loin dans des cultures étrangères qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Oui, cela fait partie de la mission et c'est tellement important. Et nous pouvons prier chaque jour pour que Dieu lève des hommes et des femmes qui rejoignent des pays, des cultures qui n'ont pas encore connu l'Évangile. Mais les églises d'Alsace du Nord sont appelées à être en mission sur la terre d'Alsace du Nord. Là où vous vivez, là où nous vivons, là est notre mission. Et c'est ce que nous appelons l'Église missionnelle. Voilà notre destinée terrestre. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour nous-mêmes, mais à quitter nos privilèges pour annoncer Christ au monde. Une Église missionnelle ou des vies missionnelles sont conscientes de deux dimensions. La première, et celle-là, nous sommes bien conscients, est celle de l'Église réunie pendant quelques heures dans la semaine. Nos cultes, nos célébrations, nos groupes de maison. Cette dimension-là, nous la connaissons bien. Et malheureusement, parfois, nous nous arrêtons là, pensant vivre l'Église. Mais l'Église missionnelle doit également se réfléchir, se vivre lorsqu'elle est dispersée pendant le reste de la semaine, c'est-à-dire en dehors de nos locaux, en dehors de nos réunions, en dehors de nos moments privilégiés où nous sommes rassemblés. Kylian Mbappé expliquait dernièrement à des journalistes à quel point le monde du football avait changé. Je ne sais pas si vous avez vu cet extrait, c'était il y a quelques mois. Il expliquait comme ça, le football a changé. Je suis très mauvais imitateur. Le football a changé. Et vous le savez mieux que moi, dit-il aux journalistes. En réalité, ce n'est pas que le foot qui a changé, c'est le monde entier qui a changé. Et qui change, et qui évolue. Les valeurs, les codes, la culture, l'éthique, les croyances. Et il a changé vite ces dernières décennies. Il y a quelques décennies encore, la foi chrétienne et l'Église étaient au cœur de la société. L'Église participait au débat, elle était interrogée, elle était écoutée, elle était prise au sérieux. Les personnes avaient confiance dans l'Église. Mais nous évoluons aujourd'hui dans une ère post-chrétienne où l'Église n'est plus au centre du village. Et à cela s'est ajoutée l'ère de post-vérité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'opinion personnelle, l'idéologie, l'émotion qui l'emporte sur la réalité des faits. Si j'ai l'intuition aujourd'hui que la terre est plate, alors c'est ma vérité. Et je le partage sans complexe. C'est cette ère de post-vérité qui permet toutes ces fake news, toutes ces fausses nouvelles qui sont répandues, toutes ces fausses croyances. Il n'y a plus une seule vérité, chacun choisit sa vérité en fonction de ce ressenti. Je pense, donc je suis, de Descartes a laissé la place à j'expérimente, donc je suis. C'est ce que j'expérimente, ce en quoi je crois. Nous voulons ressentir avant d'appartenir. Et dans un tel monde, chers frères et sœurs, le modèle attractionnel de l'Église ne nous permet plus d'atteindre les personnes qui sont loin de l'Évangile. Le modèle attractionnel, c'est-à-dire l'Église est là, nous sommes là, dans un village. Les gens savent où nous sommes, ils n'ont qu'à pousser la porte de l'Église pour découvrir l'Évangile. Mais ça ne marche plus comme ça. On ne pousse plus naturellement la porte de l'Église. Quelques-uns, oui, mais si peu. L'Église ne peut plus attendre que les personnes de l'Église poussent les portes. Le Nouveau Testament nous montre à quel point les apôtres ont dû faire face aux mêmes réalités. Prenons par exemple la rencontre de Pierre et de Corneille. Cette histoire nous présente un tournant dans l'histoire de l'Église primitive, avec l'annonce de l'Évangile et la réception de l'Évangile par les non-juifs, et la conversion d'un homme comme Corneille et de son entourage. Jusque-là, il semblait évident aux apôtres que ceux qui voulaient se joindre à l'Église devaient le faire dans leur contexte, dans un contexte d'une tradition juive, parce que ce qu'ils ont toujours connu. Mais ici, dans ce texte, dans les Actes des apôtres, Dieu intervient d'une façon miraculeuse pour montrer à Pierre et pour le convaincre que l'Évangile s'adresse à tous, là où il se trouve, juif et non-juif. L'Évangile va rejoindre les cultures. C'est ce que Jésus avait prévu. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est donc pas à Corneille de s'adapter aux cultures juives, c'est à Pierre de s'adapter à Corneille. Et nous voyons dans ce texte à quel point Pierre résiste. Il ne veut pas. Mais il finit par capituler et voir la réalité du projet de Dieu pour tous. Et sans le vouloir, nous agissons souvent comme Pierre. Nous résistons aux hommes et aux femmes qui nous entourent parce qu'ils ne sont pas comme nous, parce qu'ils ne sont pas de bons évangéliques, parce qu'ils n'entrent pas dans notre cadre. Nous pensons que c'est aux non-chrétiens de venir et de s'adapter à notre culture évangélique et d'adopter nos traditions et nos habitudes, et on ne changera pas. Garder cette posture, mes frères et sœurs, nous conduit à l'entre-soi. Garder cette posture nous empêche de rendre l'Évangile accessible à celles et ceux qui, aujourd'hui, peut-être, crient à Dieu dans le silence. Il ne faut pas que l'Église devienne un club privé et que cela devienne difficile d'y entrer. Et malgré nos efforts pour être accueillants, nos églises sont souvent des lieux incompréhensibles et culturellement étranges pour ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 9. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, Je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. Paul a compris ce que Jésus a vécu. Il est porté par l'unique désir de sauver. Il veut vivre la même chose que son Seigneur. Paul veut faire preuve de la même flexibilité de Jésus. Il se fait tout à tous afin de sauver quelques-uns par l'Évangile. Faible avec les faibles, juif avec les juifs, non-juif avec les non-juifs. Une église missionnelle est donc une église où chaque activité et chaque département sont intentionnellement tournés vers l'extérieur, s'attendant à ce que des non-chrétiens soient présents lorsque l'église est rassemblée. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à ce que des non-chrétiens entrent dans nos églises quand nous sommes rassemblés ? Et je ne veux pas vous dire prêts, juste oui, je suis prêt qu'ils viennent, mais préparés. L'église missionnelle aussi encourage et forme ses membres pour leur ministère dans le monde, lorsqu'ils sont dispersés, afin d'être en capacité de rejoindre leurs amis, leurs voisins, leurs collègues. Sommes-nous formés ? Sommes-nous capables d'être des témoins de Jésus, de faire du discipulat, d'amener des non-chrétiens, de leur parler, de leur rejoindre dans leur culture, là où nous sommes tous les jours, nos voisins, nos familles, nos amis, nos collègues ? Qui suis-je au travail ? Est-ce que je suis juste Maurice du bureau 216, sympa, poli, qui rend service dès qu'il peut ? Ou est-ce que je suis Maurice, le disciple de Jésus-Christ, que tout le monde connaît, qui rayonne dans ce lieu et qui parle de sa foi et de son espérance ? Et qui fait tout pour aimer ce qui l'entoure. Et que dès qu'il y a une occasion, il parle de son Seigneur. Notre destinée terrestre est donc d'entrer dans ce mandat missionnel que Jésus a donné à chaque disciple et donc à l'Église. Faites de toutes les nations des disciples. Cela nous demande d'être intentionnels. Cela va nous demander de changer, et on n'aime pas changer dans l'Église. Cela va nous demander de prendre des risques. Cela va nous demander de bouleverser nos pratiques, de sortir de notre zone de confort, de réfléchir différemment. Et même si nous sommes convaincus ce matin, peut-être vous étiez déjà convaincus, et peut-être que par mon petit apport, il y a quelque chose qui s'allume en vous en disant « oui, c'est vrai ». Même si nous sommes convaincus, il nous reste le plus grand défi, la mise en pratique. Comment fait-on pour être des chrétiens et des églises missionnelles ? Comment on fait ? Il ne sert à rien d'être convaincu intellectuellement. Avant d'avoir mon premier enfant, j'étais convaincu intellectuellement que je devais être un père aimant. Avant de me marier, j'étais convaincu que je devais être un mari aimant, qui devait aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et puis après, il y a la réalité, la mise en pratique. Je peux passer toute ma vie en disant « je dois être aimant, je dois être aimant, je dois aimer ma femme et ne jamais l'aimer ». J'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce matin est un temps pour nous tous de réfléchir à la mise en pratique. Si l'Église n'est plus juste pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens qui nous entourent. Il nous faut connaître qui ils sont pour pouvoir nous adapter à eux, les comprendre. Qui sont ceux qui nous entourent ? Qui sont celles et ceux qui sont dans vos villages et qui vous entourent ? Comment réfléchissent-ils le monde ? Quelle est leur vision du monde ? Quels sont leurs besoins ? Répondre à ces questions nous permet de construire des ponts qui seront pertinents. Nous ne pouvons pas fonctionner en Église sans regarder ceux qui nous entourent, sans les rencontrer. Nous ne pouvons pas former des projets d'Église sans tenir compte de ceux qui nous entourent. L'Église, ce n'est pas pour nous. Oui, nous pouvons faire des réunions de prière, nous pouvons faire des études bibliques, nous pouvons faire des groupes de maison. Et nous continuerons à tourner sur nous-mêmes. C'est une partie de l'Église et c'est génial. Et je remercie Dieu pour tout ce que nous vivons dans nos églises, où nous sommes ensemble, dans une communion fraternelle profonde. Mais où est-ce que nos philosophies de projets d'église, nos visions, nos projets, à quel moment, à quels endroits sont-ils tournés aussi vers l'extérieur ? Parfois, je doute quand je vois les têtes d'affiche de nos concerts d'évangélisation, que nous avons vraiment conscience des goûts musicaux de ceux qui nous entourent. Vraiment, ce n'est pas une critique. Nous avons une culture musicale dans nos églises, et nous l'aimons, et c'est super. Mais quand nous nous adressons à ceux du dehors, nous leur proposons ce que nous aimons, mais pas ce que eux, ils écoutent. Pas ce que eux, ils aiment, pas leur code, pas leur culture. Imaginez-vous le chemin culturellement qu'ils doivent faire pour nous rejoindre et comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Pour eux, parce que c'est pour eux cette soirée. Nous devons comprendre et prendre la mesure de qui sont ceux qui nous entourent et les rejoindre avec des ponts culturellement adaptés et pertinents. C'est comme ça que nous nous donnons la chance et la chance au Seigneur de rejoindre des hommes et des femmes. Bien sûr, l'Esprit-Saint travaille, et c'est lui qui fait ce travail. Et bien sûr, il peut toucher les cœurs au milieu d'un concert culturellement pas adapté, je suis d'accord. Mais nous pouvons aussi faire notre part et donner un maximum de chance pour parler à nos contemporains. À quoi ressemblent nos cultes le dimanche matin ? Est-ce que nous nous attendons à ce que des non-chrétiens viennent nous rejoindre ? J'espère que oui. Mais qu'est-ce qu'ils voient ? Qu'est-ce qu'ils expérimentent ? Comment les accueillons-nous ? Comment leur expliquons-nous qui nous sommes et ce que l'on fait ? Nous, on sait, on n'a pas besoin de nous expliquer. Mais lui qui vient d'arriver, il ne connaît rien. Ça fait peut-être 6 mois qu'il galère. Chaque dimanche matin, il a envie de passer cette porte, mais il a peur. Et pour la première fois de sa vie, il passe la porte de l'église évangélique de son village ou de sa ville. Avons-nous préparé cette rencontre ? Avons-nous préparé cet accueil de cet homme, de cette femme, de cette famille ? Sommes-nous prêts ? Est-ce que le président de culte s'est préparé ? Est-ce que dans tout ce qu'il va dire, il est conscient que peut-être dans la salle, il y a des gens qui ont besoin que je vienne vers eux pour leur expliquer qu'est-ce qui va se passer ce matin ? Parce que sinon, c'est difficile, c'est compliqué de nous rejoindre. Quel est notre vocabulaire ? Comment nous expliquons les temps que nous vivons ? C'est quoi la prière ? C'est quoi la louange ? Le matin, nous arrivons et nous disons, voilà, on va passer un bon temps dans le Seigneur, on va le louer. Et le gars, il est derrière, il dit, un temps dans le Seigneur. Et puis on chante à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. C'est chaud quand même. Et puis on présuppose dans nos messages que les gens connaissent. Vous connaissez Jean 3,16, pas besoin de vous le dire. Et lui, il est sur sa chaise, Jean 3,16. Je ne connais pas, moi. Ça a l'air important, mais personne ne m'explique. Est-ce que nos prédicateurs sont formés pour parler à deux publics dans l'Église ? Pour nourrir le peuple de Dieu, les frères et sœurs qui ont faim de la parole, mais aussi pour aller tendre une main vers celui qui ne connaît rien de la parole et qui a besoin qu'on le cherche. Qu'est-ce que les gens connaissent de notre Église ? Quand ils vont sur Internet, nos sites Internet, sont-ils adaptés aux non-croyants ? C'est à eux quand même. La communication en général, c'est un message qu'on veut donner à des gens qui ne nous connaissent pas encore. C'est ça l'idée. Comment vivons-nous nos groupes de maison en semaine ? Est-ce que c'est juste des groupes où nous sommes ensemble, entre chrétiens, contents, nous allons prier les uns pour les autres ? Étudier la parole, louer le Seigneur, c'est excellent. Mais est-ce que dans nos objectifs de groupe de maison, nous avons aussi le témoignage, l'ouverture, l'évangélisation ? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir, à bouleverser nos programmes ? Qu'en est-il de la culture de grâce ? Si le Seigneur avait regardé à l'ensemble des péchés de l'humanité et qu'il en était resté là, il ne serait jamais venu nous rejoindre. Jamais. Et pourtant, il a fait cet acte d'amour incroyable. La grâce de Jésus-Christ est juste magnifique. Quelle est notre grâce envers celles et ceux qui ne sont pas de notre culture, qui n'ont pas la foi. Nous arrêtons-nous à la façade, à ce que nous pouvons voir d'eux, de leurs péchés. Nous arrêtons-nous à la gravité de leurs péchés. Ou faisons-nous preuve de la culture de grâce ? Mes frères et sœurs, nos églises devraient être des lieux de grâce, où toute personne, qui qu'elle soit, puisse entrer et être aimé. Aimé aussi fort que nous aimons notre frère préféré de l'Église. J'ai vécu ces dernières années un accompagnement d'un homme qui est venu à l'Église, désespéré de sa vie, désespéré de l'Église, homosexuel. J'aurais pu m'arrêter à cela et dire « Il est homosexuel, j'y arriverai jamais, ce sera trop dur. » Puis je ne peux pas vraiment lui dire ce que Dieu veut lui dire, il ne changera pas. Et en fait, la culture de grâce permet juste d'aimer cette personne, de s'intéresser à elle. D'entendre des choses, on n'a pas vraiment envie de les entendre. Mais quand même, quand nos enfants viennent avec leurs difficultés, nous les écoutons. N'importe quelle difficulté, nous écoutons nos enfants. Même des choses qui nous hérissent le poil, nous les écoutons et nous tentons malgré tout de les aimer du plus profond de notre être. C'est la même chose pour les hommes et les femmes non-croyants qui traversent qui font le pas, qui viennent pousser la porte de notre Église. La culture de grâce. Je vais t'aimer comme le Seigneur t'a aimé. Je vais pardonner tout ce que j'entends, tout ce qui ne va pas. Je vais pardonner comme le Seigneur t'a pardonné. Et je vais prier pour toi, pour qu'un jour, tu te laisses transformer par le Seigneur. Et le Seigneur le fait. Et le Seigneur le fait. Avons-nous dans nos églises, frères et sœurs, des temps dédiés aux non-croyants pour la découverte de la Bible ? Des temps mis dans l'agenda intentionnel ? Parcours alpha, parcours découvert de la Bible. Avons-nous ça dans nos programmes ? Il n'y a même pas à discuter, c'est chaque année, même période, on le fait, ou deux fois par an. Parce que c'est important. Et parce qu'on veut que nos frères et sœurs dans l'Église invitent leurs amis et on va faire des temps qui seront pertinents pour eux, sympas. On peut manger ensemble, on peut discuter de tout, de rien, puis à un moment donné, on peut ouvrir la parole et leur expliquer ce que nous comprenons. Est-ce qu'on a ces temps-là dans l'Église ? Est-ce que nos vies sont ouvertes pour nos amis, pour nos collègues ? Est-ce que nous avons encore des amis autour de nous ou est-ce qu'il n'y a plus que l'Église ? Je ne parle pas des amis de l'Église, ce sont des frères et sœurs, mais les autres. Nos vies sont-elles ouvertes ? Avons-nous une fierté d'être chrétien ? Avons-nous une fierté d'appartenir à l'Église ? Avons-nous cette capacité de faire rencontrer nos amis du boulot avec nos frères et sœurs de l'Église ? Est-ce que c'est juste logique dans nos vies, quand je fête mon anniversaire, de juste faire une fête et d'inviter mes frères et sœurs de l'Église et mes amis du boulot, ma famille ? Pour que là, deux cultures se rencontrent, se frottent. Qu'on puisse avoir juste la liberté, l'aspect juste naturel de dire « Ah, ça c'est un ami de l'Église. » Et pour que le collègue dise « Ah ouais, puis lui aussi là-bas, j'ai compris que c'était un ami de l'Église, lui aussi. » Il y a beaucoup d'amis d'Église. Et pour qu'à un moment donné, dans un coin de canapé, un ami de l'Église et un ami du boulot discutent ensemble, naturellement. « Ah, tu fais du foot ?»« Ouais, je joue à Zébar. » Ah, moi, je joue à Münchhausen. Ah. Et ça discute. Est-ce que c'est juste naturel dans nos vies ? Parce que c'est ce que Christ a fait. Il a traversé les chemins de la Judée. Il a rencontré. Il a mis en contact. C'était naturel pour lui. Est-ce que nous sommes prêts à réduire nos activités d'église, faire un peu moins d'activités spirituelles pour passer un peu plus de temps avec nos amis ? Quelles sont les portes que nous ouvrons dans l'église, dans nos vies ? Vers ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Notre défi ce matin, c'est de pouvoir repartir et de se dire, il faut que j'ouvre plus de portes. Il faut peut-être que je transforme certaines choses dans mon église. Ça va être compliqué, mais ça vaut la peine. Quand il y a une église connue pour l'accueil des non-croyants, les non-croyants viennent. Parce que les frères et sœurs de l'église sont fiers. Ils se disent, là, je sais, je peux inviter mon collègue. Ce qui va se passer ce matin, je n'ai pas besoin de serrer les fesses et de me dire qu'est-ce qu'il va penser. Je sais qu'il va être béni, bien accueilli, qu'on va s'adapter à lui, qu'on va savoir lui parler. Mes frères et sœurs, notre destinée terrestre, c'est celle-là. Nous avons été touchés par la grâce. Nous savons où nous allons. Et bien sûr, nous avons besoin d'être encouragés sur notre chemin et d'être nourris. Mais ça, l'Église sait le faire. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Mais notre destinée terrestre, c'est de rencontrer celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. pour leur donner la possibilité de découvrir le message rédempteur de l'Évangile. C'est notre destinée terrestre. Allez. C'est la dernière parole de Jésus. Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et à leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Notre destinée, ce n'est pas de construire nos vies pour nous-mêmes. Notre destinée, c'est d'utiliser nos vies pour les autres. Frères et sœurs dans l'Église et amis non-croyants. Entre dans ta destinée terrestre. Entre. Entrons. Faisons tout ce que nous avons à faire. Nous avons besoin pour cela d'être intentionnels. Cela ne se fera pas tout seul. Nous prions maintenant pour que le Seigneur nous aide à le mettre en place et à voir du fruit dans les prochains mois, années et décennies. Prions. Notre Père, tu es le Créateur de toutes choses. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'Éternel. Tu es celui qui nous a aimés d'un amour parfait par Jésus-Christ. Tu nous as envoyé ton Fils, afin que nous puissions te voir et entrer sur le chemin que tu as prévu pour nous, un chemin resserré, une porte étroite. Sans même que vraiment nous le demandions, tu as étendu ta main sur nous et tu nous as arrachés à nos ténèbres pour nous placer dans ta lumière. Tu nous as fait découvrir ton immense pardon. Tu nous as graciés, tu nous as pardonnés, tu nous as justifiés, tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes héritiers. Tu nous prépares une place et nous savons que lorsque tu reviendras, tu jugeras les vivants et les morts. Mais nous savons que Dieu nous regardera par le filtre de la grâce de Jésus-Christ et nous pourrons entrer dans les lieux éternels et vivre pour l'éternité avec toi, Jésus. C'est acquis par la grâce, par ton œuvre, Jésus. Mais ce que tu nous demandes maintenant, c'est de nous réjouir et de te bénir et de te louer chaque jour, chaque instant pour cette grâce qui nous met en route pour aller vers celles et ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous envoies, que tu nous donnes l'envie, la fierté de l'Évangile, les idées, la capacité de faire bouger certaines choses, de changer nos mentalités, de changer de paradigme. Seigneur, nous te prions pour ce changement dans nos vies d'abord et dans la vie de nos églises ensuite. Nous te prions, Seigneur, pour des futurs hommes, femmes, familles qui sont aujourd'hui peut-être genoux pliés et qui attendent un signe de ta part. Nous te prions, Seigneur, de les voir prochainement arriver dans nos églises et de nous rendre capables de les accompagner et de les voir, Seigneur, s'ouvrir à ta réalité et être transpercés par ton amour. Seigneur, viens changer nos cultures. Viens changer notre vocabulaire. Viens nous aider à nous adapter, Seigneur. Comme toi, tu l'as fait, comme Paul l'a fait, comme l'Église primitive l'a fait, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour des pistes très pratiques et pour un retour de ce que nous avons parlé ce matin. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas forcément là, mais je vous encourage quand même à rester pour qu'on puisse entrer dans du pratique. Merci à vous, merci pour votre attention.